Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle édition des Échos Sportifs dans laquelle nous allons revenir sur les dernières actualités sportives. On commence tout de suite par un point sur le championnat de Pro D2 dans lequel le rugby club de Vannes est à la lutte pour les deux premières places. La semaine dernière, les Bretons se sont contentés d'un match nul sur la pelouse de Soyaux Angoulême. Ce vendredi soir, dans un stade de la Rabine qui s'annonce bouillant et qui devrait d'ailleurs battre son record d'affluence, les Vannetais affronteront Dax, chez qui ils s'étaient imposés avec le bonus offensif fin octobre. Dans les rangs bretons, on pourra compter sur le retour de Gorissen et de Ben Megal au sein d'un effectif Vannetais en mission vers les phases finales. Toujours côté breton, on peut noter la bonne performance de Louis Pinverne ce week-end avec le Stade Rochelet. Auteur d'un essai, il a permis à son équipe d'arracher la qualification pour les quarts de finale de Coupe d'Europe. Les Rochelais retrouveront les Irlandais du Leinster sur leur route pour le remake des deux dernières finales de Champions Cup qui avaient sacré les Rochelais par deux fois. Maintenant un point sur le football avec la Ligue 1 et des clubs de l'Ouest qui se retrouvent dans des situations bien différentes, Izen.
Tout à fait. Les Brestois pointent toujours à la deuxième place et semblent bien partis pour se qualifier pour la Ligue des Champions avec actuellement 9 points d'avance sur le 5e. Un autre club breton vise la Coupe d'Europe, il s'agit du Stade Rennais. Malheureusement pour eux, les derniers résultats ne sont pas bons, avec seulement une victoire sur leurs 5 derniers matchs de championnat.
Et en bas du classement ?
Eh bien, Nantes se retrouve en tant que premier non relégable, mais reste sur 3 défaites de rang, dont la dernière en date face à Lyon à domicile. Ils conservent néanmoins 2 points d'avance sur le barragiste, qui n'est autre que Lorient. Les Merlus sont aussi dans une période compliquée, avec seulement 1 point pris sur leurs 12 lors des 4 derniers matchs. Et ça ne s'est pas arrangé dimanche dernier, puisqu'ils se sont inclinés 2-0 face à Montpellier, concurrent direct pour les barrages.
Il me semble qu'on a aussi des clubs de l'Ouest en Ligue 2 qui luttaient pour la montée.
Oui, tout à fait, avec Angers qui est toujours sur le podium. Ils viennent de se voir doubler pour la deuxième place par Saint-Etienne et restent sur un match nul face à Laval. Des Lavallois qui eux aussi jouent pour la montée cette année et qui se retrouvent 4e à 5 points du 3e. Guingamp se classe aussi dans la première partie de tableau et s'accroche pour jouer les barrages, mais ils restent sur deux tristes 0-0 face à Grenoble et Amiens. Enfin, Concarneau, quant à eux, vont lutter jusqu'au bout pour le maintien, mais avec 4 défaites de rang, dont la dernière contre Saint-Etienne, l'opération s'annonce compliquée. Ils sont 18e à 3 points du premier non relégable Annecy.
Et nous sommes dans une semaine de Coupe d'Europe.
Exactement, avec malheureusement la défaite du Paris Saint-Germain hier soir 3-2 face à Barcelone. Les Parisiens tenteront de se qualifier au Stade Montjuïc la semaine prochaine. Ce soir, Marseille jouera sa qualification pour les demi-finales de Ligue Europa face à Benfica, pendant que les Lillois affronteront Aston Villa pour atteindre le dernier carré de la Conference League.
Et tout de suite, la Formule 1 avec Donatien, la Formule 1 qui était du côté du Japon ce week-end.
Oui, Adrien, pour l'une des premières fois au début du calendrier, c'est une volonté des dirigeants de réunir les courses par continent et le Japon s'inscrit donc au cœur d'une tournée asiatique en ce début de saison. Pour les novices de la Formule 1, Suzuka est l'un des circuits les plus mythiques du sport automobile. Son tracé en 8 en fait son originalité. Il a été le théâtre de plusieurs grands moments de l'histoire avec des courses à suspense ou encore les deux plus gros accidents du duel mythique Senna-Prost en 1988 et 1990. Cette année, le suspense a tourné court, Max Verstappen sur Red Bull a dominé le Grand Prix en partant de la pole position. Le début de course, marqué par un drapeau rouge et un crash entre Daniel Ricciardo et Alex Albon, n'a pas perturbé le triple champion du monde. Derrière lui, Sergio Perez, son coéquipier et Carlos Sainz sur Ferrari complètent les marches du podium. Pourtant, à la mi-course, on pensait le podium acquis pour Lando Norris sur McLaren, mais une erreur de stratégie a fait tomber le pilote anglais à la 5e position.
Et ce fut un week-end mouvementé, aussi bien sûr qu'en dehors de la piste.
Tout à fait, ce week-end de Suzuka a été l'objet de nombreuses rumeurs qui entourent le mercato, avec une principale question, qui remplacera Lewis Hamilton chez Mercedes ? Toto Wolff, le patron de l'écurie allemande, a clairement fait comprendre que Max Verstappen était sa priorité. Le Néerlandais joue d'ailleurs de ses rumeurs en conférence de presse. Lié jusqu'à 2028 à Red Bull, Verstappen pourrait plier bagage après l'affaire Horner qui a secoué le paddock et l'écurie en février. On le rappelle, l'affaire Horner, c'est une employée de Red Bull qui accuse le team principal de harcèlement moral. Max Verstappen et son clan n'ont, semble-t-il, pas apprécié la gestion de l'affaire en interne et pourraient donc décider de quitter le garage bleu pour le garage argenté. Un marché des transferts qui s'annonce donc explosif avec l'étincelle déclenchée par Lewis Hamilton le 1er février et l'annonce de son arrivée dans la Scuderia Ferrari aux côtés de Charles Leclerc. De plus, 12 pilotes sont sans contrat pour l'année prochaine. Bref, les fans de Formule 1 sortent déjà le popcorn.
Le cyclisme maintenant avec Clément qui va nous parler des chutes.
On est sur la 4e étape du Tour du Pays Basque. Une grosse chute implique la plupart des favoris de la course. En tombant, ces coureurs ont heurté le fossé, mais surtout une rigole en béton. Et parmi eux, Roglic, Evenepoel et surtout Vingegaard, le dernier vainqueur du Tour de France. Alors les différents diagnostics médicaux tombent et font froid dans le dos. Fracture de la clavicule, pneumothorax, contusion pulmonaire et commotion cérébrale. L'issue aurait pu être dramatique. Le Belge Steph Kras, lui aussi impliqué dans cette chute, rapportera qu'à 20 cm près, je serais mort. Quelques jours plus tôt, sur À travers la Flandre, une autre très grosse chute a marqué les esprits, avec une quinzaine de blessés. On retiendra notamment l'image du Belge Wout van Aert criant de douleur en sanglots.
Est-ce que le cyclisme est devenu trop dangereux ?
Eh bien, il a toujours été, à vrai dire. Mais on remarque que les chutes, elles sont de plus en plus violentes. Beaucoup de choses expliquent. Les mobiliers urbains, les braquets, les oreillettes, les capteurs de puissance, mais aussi les vélos.
Mais le souci vient-il uniquement de là ?
Eh bien, pas sûr. Et si le gros problème venait finalement des coureurs eux-mêmes ? La pression constante est un engrenage sans fin pour lequel le peloton est de plus en plus tendu, toujours nerveux, peu importe les courses. Car pour les chutes que nous venons d'évoquer, la catastrophe, elle est évitée de peu. Mais cela n'a pas toujours été le cas. On se souvient notamment de la chute mortelle de Gino Madère l'an passé sur le Tour de Suisse ou encore le décès du jeune Björg Lambrecht sur le Tour de Pologne en 2017, pour ne citer que. Pour bien vous rendre compte du danger, Marc Madiot, manager de la Groupama FDJ, déclare qu'aujourd'hui, on est plus en sécurité dans une Formule 1 à plus de 300 km/h que sur un vélo sur le Tour de France. Les syndicats de coureurs et l'Union cycliste internationale doivent donc trouver des solutions pour éviter de nouveaux drames. De nombreuses propositions sont mises sur la table. Ce sport cherche à aller toujours plus vite, parfois au péril de ceux qui le pratiquent.
Et maintenant, place au tennis de table avec notre spécialiste Nicolas qui va nous parler des chances de médailles françaises aux Jeux Olympiques.
Alors pour parler des chances de médailles aux Jeux Olympiques, notamment pour le tennis de table, il faut remonter en 1992 et les Jeux de Barcelone où Jean-Philippe Gatien, meilleur joueur français de l'histoire du tennis de table, a remporté l'argent. Aujourd'hui, il y a un successeur, Félix Lebrun, actuel numéro 5 mondial, et donc en lice à Paris.
Est-ce que Félix Lebrun représente une vraie chance de médaille ?
Alors oui, et notamment parce que les Jeux Olympiques, c'est la compétition où les Chinois ont le moins de chances de gagner toutes les médailles. Je m'explique. Au dernier championnat du monde, par exemple, les Chinois ont remporté toutes les médailles, en simple messieurs comme en simple dames, de l'or au bronze. Aux Jeux Olympiques, actuellement, il n'y a que 2 candidats par nation, ce qui implique donc qu'il y a forcément le bronze qui ne sera pas pour la Chine. De plus, on peut dire que Félix est le numéro 1 européen, donc il sera favori au bronze, quoi qu'il arrive. De plus, la bête noire de Félix, Wang Chuqin, actuel numéro 1 mondial, ne sera pas aux Jeux Olympiques. Malong et Fan Zhendong y seront préférés pour leur valeur historique. L'un est double champion du monde en titre, l'autre est double champion olympique en titre. Et enfin, on peut dire que la Chine est moins dominante que par le passé. Ces deux joueurs dont on vient de parler sont beaucoup moins forts qu'il y a 4 ans. Il y a donc une véritable chance même d'aller plus loin que le bronze.
Merci à tous. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition des Échos Sportifs. Bonne semaine.